Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et en écho bien sûr à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, retour sur la Révolution Orange 2004. En novembre de cette année-là, le candidat pro-russe Viktor Yanukovych est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle ukrainienne. Les forts soupçons de fraude poussent son rival Viktor Yushchenko à s'opposer au résultat. Immédiatement, un immense soulèvement populaire citoyen surgit sur la place Maïdan avec une couleur pour symbole, l'orange. Pendant 2 mois, l'Ukraine, ce jeune pays peu ou mal connu à la frontière de l'Europe et de la Russie, devient l'épicentre d'un affrontement entre les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, où se mêlent enjeux politiques, économiques et historiques, et où s'affronte un peuple ukrainien divisé à la recherche de son identité. Ces questions sur l'Ukraine d'hier à aujourd'hui, nous les poserons à notre invité Alain Guilmol, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie. Il a été correspondant en Ukraine, il a assisté à la Révolution Orange et il est l'auteur du livre intitulé « Ukraine, le réveil d'une nation » paru aux éditions Les Petits Matins. Le récit que vous allez entendre, Alain, maintenant, dans quelques secondes, a été diffusé une première fois le 22 février 2017. Et aujourd'hui, avec le même invité en direct, Alain Guilmol, donc, nous allons aborder l'actualité et essayer de mieux comprendre ce qui a poussé Vladimir Poutine et la Russie à envahir l'Ukraine jeudi dernier. Et tout au long de la semaine, nous reviendrons sur les récits d'affaires sensibles liés à la Russie, à l'Ukraine et à la Crimée. Affaires sensibles, connectées à l'actualité, une émission de France Inter, récit documentaire Simon Maisonneuve, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Stéphane Ronxin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La situation est restée calme durant la soirée. Lorsque les sondages sortis des urnes ont donné une avance au premier tour pour Viktor Yushchenko, le candidat de l'opposition, avec selon les instituts 42 ou 45% contre 40 ou 37% à son adversaire, le premier ministre pro-russe Viktor Yanukovych. Pour l'instant, d'après la commission centrale électorale, Viktor Yanukovych, le premier ministre, obtiendrait 43% et Viktor Yushchenko, l'opposant démocrate, obtiendrait 36% et ce sur 63% des voix dépouillées. Parallèlement, l'opposition effectue un décompte inverse et affirme que Viktor Yushchenko, l'opposant, l'a emporté dès le premier tour avec plus de 50%, d'où une certaine confusion et le pouvoir qui a bloqué les accès à la commission centrale avec des services de sécurité, des blindés et des canons à eau.
Le 31 octobre 2004, Ukraine. Après plusieurs semaines d'une campagne intense, on connaît les deux candidats pour le second tour de la présidentielle, Viktor Yushchenko et Viktor Yanukovych. Ils sont au coude à coude. Chacun a réuni 39% des suffrages au premier tour. Comme souvent, l'entre-deux-tours est un moment où se cristallisent les oppositions. Et en Ukraine, la confrontation entre ces deux hommes renvoie l'image d'un pays en proie de fortes divisions intérieures. On semble l'oublier parfois, ce grand et jeune pays de 48 millions d'habitants aux confins de l'Europe n'a acquis son indépendance et ses frontières d'alors qu'en 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS. La traduction même du mot « Ukraine », qui signifie « la marche, la bordure, la périphérie », illustre ce pays de l'entre-deux, de l'enjambement entre deux aires géographiques, deux zones d'influence, l'Europe et la Russie. Un tiraillement géographique, historique et culturel qui est le véritable enjeu de cette campagne présidentielle et que Dezorb incarne. Deux hommes donc. D'un côté, Viktor Yanukovych, premier ministre sortant, âgé de 54 ans. Lui, c'est le candidat soutenu par le pouvoir, occupé depuis 10 ans par le président Léonid Kouchma. À la tête du Parti des régions, Yanukovych, l'homme de l'Est et du Sud, ancien gouverneur de la région industrielle, ouvrière et russophone de Donetsk, le poumon économique du pays, est soutenu par l'Église orthodoxe d'Ukraine, dominante dans la région. Un homme au parcours et à la réputation trouble. Passé par la casse-prison dans sa jeunesse, soutenu par les clans oligarchiques et mafieux du Donbass, soupçonné de corruption, il fait campagne pour un rapprochement de l'Ukraine avec la Russie. En face, Viktor Yushchenko. Lui, c'est d'abord un visage, celui d'un homme qui témoigne de toute la violence de cette campagne présidentielle ukrainienne. Qu'est-il arrivé en effet à cet homme de 50 ans, au physique avenant et qui aujourd'hui présente un visage cerné, vérolé, bouffi? Quelques mois plus tôt, en septembre, après un dîner avec le chef des services secrets ukrainiens, il est tombé subitement malade et a dû être hospitalisé pendant plusieurs jours à Vienne. sauvé in extremis, il réapparaît défiguré et affirme qu'on a tenté de l'empoisonner pour l'empêcher de se présenter. Car Viktor Yushchenko dérange. Celui qui fut aussi Premier ministre entre 1999 et 2001 est à la tête d'une coalition de centre-droit baptisée Notre Ukraine, principale force politique du pays depuis les législatives de 2002. Il fait campagne pour un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et surtout contre le système oligarchique et corrompu qui gangrène le pouvoir et l'économie du pays. Ancien directeur de la Banque centrale, Yushchenko est soutenu par l'Ouest et le centre de l'Ukraine, région agricole et tertiaire, plus pauvre que le Sud et l'Est, et soutenu par l'Église gréco-catholique majoritaire dans cette région. C'est ainsi que se présente ce second tour de l'élection présidentielle ukrainienne. Les mesures économiques, sociales, politiques passent à l'arrière-plan. Le suffrage est d'emblée présenté comme un choix entre deux visions, deux orientations antagonistes pour un même peuple. Enjeu qui dépasse largement la simple Ukraine, si bien que le dimanche 21 octobre 2004, jour du second tour, c'est toute une partie du monde qui a les yeux rivés sur le scrutin.
Les premiers résultats des sondages sortis des urnes viennent de tomber à l'instant et ils donnent la victoire au candidat de l'opposition, Viktor Yushchenko, avec 49,5% des voix contre 46,3% au premier ministre sortant Viktor Yanukovych. Méfiance cependant, aucun de ces sondages n'était juste après le premier tour et la Commission centrale électorale avait mis 10 jours pour rendre officiels les résultats du premier tour. La population est descendue en masse dans les rues, ils appellent cela une ronde de nuit électorale. C'est le nom donné par les jeunes opposants du mouvement Pora, il est temps en ukrainien, qui veulent ainsi dire au pouvoir qu'ils ne se laisseront pas impressionner par les fraudes.
Au soir du dimanche 21 novembre 2004, avec un faible taux de participation, autour de 55%, les résultats du second tour de la présidentielle ukrainienne tournent à la confusion. Les sondages, à la sortie des urnes, donnent la victoire à Viktor Yushchenko. Pourtant, dans la nuit, la commission électorale centrale annonce la victoire de Viktor Yanukovych avec près de 3% d'avance. Dès l'annonce de ces résultats, l'opposition dénonce les fraudes qui entachent le scrutin. Il semblerait qu'elles aient battu tous les records pour ce second tour. Il faut dire que la loi électorale ukrainienne permet certaines dispositions à même de créer le trouble. Ainsi, les Ukrainiens peuvent voter en dehors de leur circonscription. On voit donc des centaines de bus venus de l'Est déplaçant des électeurs de bureau de vote en bureau de vote. Les personnes âgées ou malades ont le droit de voter à domicile, sans surveillance spécifique. Et dans les régions de Donetsk et de Lugansk, à l'Est, le taux de participation est de 98%, soit 21% de plus qu'au premier tour. Pour l'opposition, c'est clair, la fraude a permis au candidat du pouvoir, Yanukovych, de réunir 3-4 millions de voix supplémentaires. De quoi le faire passer en tête. Dans chaque camp, on s'est préparé d'ailleurs à cette éventualité. Du côté du pouvoir, que ce soit le président Kouchma ou son premier ministre candidat, on prépare depuis des semaines les forces de l'ordre à de possibles manifestations. En face, dans l'opposition, on savait que le résultat serait tronqué et que la seule manière de les contester passerait par une importante mobilisation dans la rue. Alors, ce 21 novembre 2004, à l'annonce des résultats, Viktor Yushchenko prend la parole et lance un appel.
Les gens arrivent. Mes amis, je veux vous dire que chaque jour, il y aura encore plus de monde sur cette place. Demain, nous organiserons une grande manifestation dans toute la ville de Kiev.
En réponse à l'appel de Yushchenko, ils sont près de 100 000 Ukrainiens affluent dans les rues de Kiev, la capitale, en direction de Maïdan, la place de l'indépendance. L'opposition se mobilise et brandit ses premiers symboles, la couleur orange, celle de la coalition Notre Ukraine, et un slogan TAC qui veut dire oui. On installe une scène à la hâte où se relaient groupes de rock et discours des leaders, au premier rang desquels le candidat Yushchenko, suivi d'Yulia Tymoshenko, 44 ans, ancienne dirigeante d'une société de gaz et adversaire indéfectible du président Kouchma. Elle représente l'aile radicale de l'opposition et s'impose rapidement comme l'égérie du mouvement. Ce lundi 22 novembre 2004, l'Ukraine assiste tout simplement au plus grand rassemblement de sa courte histoire. Qui compose cette foule ? Eh bien des jeunes, des retraités, des fonctionnaires ou des petits entrepreneurs. une foule hétéroclite socialement, mais unie culturellement et surtout politiquement, et autour de deux objectifs. D'abord, faire barrage à un pouvoir autoritaire et corrompu, soumis à la loi des clans oligarchiques soutenus par la Russie de Vladimir Poutine. Ensuite, promouvoir l'ouverture vers l'Europe que défend Yushchenko. Ainsi, le moteur du mouvement, c'est une génération qui n'a pas connu l'ère soviétique et qui se rallie non pas derrière un homme, mais pour des principes et une aspiration. Dès les premières heures de la mobilisation, on voit arriver sur la place de l'Indépendance les jeunes étudiants du mouvement Pora. Ils installent les premières tentes sur le boulevard Kretchatyk qui mène à la place. Premier signe d'une opposition préparée et mobilisée, prête à faire durer son combat. Et pour cause, le mouvement Pora se prépare depuis plusieurs années à cette échéance. Il a déjà éprouvé cette forme de lutte en 2001. Cette année-là, un journaliste opposé au régime avait été retrouvé décapité. La publication d'enregistrement quelques semaines après la découverte du corps mettait en cause le président sortant, Kouchma. Pendant plusieurs mois, les jeunes étudiants avaient manifesté sur la place de l'Indépendance pour réclamer sa démission, sans succès, si ce n'est d'avoir fait l'expérience de la mobilisation. Et à Maïdan, les premières voix qu'on entend sont celles de ces jeunes, précisément ces jeunes, unis contre le pouvoir en place.
Dans notre pays, chacun est confronté à la corruption. Nous, les étudiants, on la vit à l'université, mais elle touche aussi les autorités et les tribunaux.
Je crois que c'est trop tard pour eux pour entreprendre quelque chose de ce genre. Le peuple a le pouvoir maintenant.
Je dois vous dire que c'est la première fois depuis plusieurs années que le peuple s'est levé tellement massivement. Et si tout le monde va dans la même direction, je suis convaincue qu'on saura arrêter cette personne et défendre notre choix, le choix libre des gens aux élections présidentielles.
Une fraude électorale est attendue, massive, un soulèvement préparé mais à l'ampleur inattendue. Ces deux ingrédients provoquent le blocage politique du pays et ouvrent une voie à Viktor Yushchenko et au mouvement Notre Ukraine pour renverser le pouvoir en place. Ce même lundi 22 novembre 2004, Yushchenko reçoit des soutiens de poids. D'abord, celui de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération d'Europe, l'OSCE, qui déclare avoir relevé de multiples fraudes qui rendent caduques les résultats. Ensuite, les conseils municipaux des principales villes de l'Ouest et du Centre, notamment Lviv et Ternopil, votent leur soutien aux candidats de l'opposition. Enfin, 150 diplomates ukrainiens signent une lettre commune dans laquelle ils valident l'élection de Viktor Yushchenko comme président. Mais de son côté, et malgré la démonstration de force du mouvement orange dans la rue, le premier ministre déclaré officiellement vainqueur, Yanukovych, se contente d'une courte déclaration.
Je me démarque catégoriquement de ces politiciens qui appellent le peuple à ériger des barricades. C'est un petit groupe de radicaux qui ont pour seul but de diviser l'Ukraine en exerçant des pressions violentes et en menant des actions illégales.
Du côté du pouvoir sortant, on adopte une stratégie, elle tient en un mot, l'usure. Viktor Yanukovych se réfugie derrière sa victoire et commence par nier le mouvement de la rue. Surtout, et c'est un élément central, il est un premier ministre toujours en exercice et il a le soutien du président sortant Kouchma. Il conserve ainsi le contrôle sur les administrations, mais aussi sur les médias qui, au lieu de parler du mouvement d'opposition, diffusent des films ou des émissions de variété. Si par moment la couleur orange s'invite sur le petit écran, c'est pour signaler aux juste quelques centaines de protestataires. Sur le plan politique et international, le vainqueur proclamé Yanukovych peut compter sur des soutiens de poids. Avant même l'annonce des résultats définitifs, le président russe Vladimir Poutine a salué sa victoire. À l'est du pays, notamment dans la région de Donetsk, ses supporters sortent aussi dans la rue pour le soutenir. Le 23 novembre, deux jours après le second tour, les élus pro-Kouchma qui soutiennent Yanukovych, bien sûr, désertent le Parlement pour s'opposer aux contestations des députés pro-Yushchenko. D'ailleurs, ce jour-là, le leader de l'opposition décide de franchir un pas.
Viktor Yushchenko a franchi le Rubicon. Une main sur la Bible, il a prêté serment en tant que président devant le Parlement ukrainien. Le candidat de l'opposition a donc décidé de passer outre sa défaite officielle. Les 191 députés qui l'ont soutenu et proclamé chef de l'État n'étaient pas suffisamment nombreux pour atteindre le quorum nécessaire au vote d'une résolution. Mais ce soir, le président du Parlement, fidèle au pouvoir pro-russe, a dénié toute valeur à cette prestation de serment. Il a reçu en cela le soutien de Vladimir Poutine. Le président russe, en visite au Portugal, a jugé inadmissibles les réserves de l'Union européenne et de l'OSCE à propos des élections en Ukraine.
L'Ukraine est un grand État doté d'un système légal développé, un État qui n'a pas de leçons à recevoir, il pourrait même en donner.
Pendant que Viktor Yushchenko s'est fait proclamer président, Yulia Tymoshenko, leader radical du mouvement Orange, conduit une marche vers l'administration présidentielle. Le mouvement entre alors dans une nouvelle phase et durcit son opposition. La mobilisation, malgré les jours qui passent et le froid terrible de la capitale ukrainienne, ne faiblit pas. Au contraire, chaque jour, ce sont des bus entiers, des voitures bondées qui déposent des milliers de provinciaux dans les rues de Kiev venus rejoindre la Révolution Orange. La chaîne Canal 5, financée par un député et homme d'affaires soutien de Yushchenko, est la seule à diffuser la réalité du mouvement en cours. Ainsi, des milliers d'Ukrainiens peuvent suivre l'opposition en direct. Une révolution orange qui, après avoir brandi ses symboles, bâtit ses rites. Chaque soir, les discours et les concerts s'enchaînent. Chaque jour, des marches sont organisées pour bloquer les administrations, lieu symbolique du pouvoir, que contrôle encore l'équipe en place sous la houlette de Yanukovych, le Premier ministre. Pourtant, le 24 novembre...
L'Ukraine est au bord d'une guerre civile. A-t-il la volonté de dramatiser les choses ou bien voit-il juste ? Ce sont en tout cas les propos de Viktor Yushchenko lancés hier sur la place de l'indépendance à Kiev, au milieu des flocons et devant plus de 100 000 manifestants. Juste avant la victoire du Premier ministre pro-russe, Viktor Yanukovych, avait été officiellement proclamé par la commission électorale. Le bras de fer se durcit donc, c'est un euphémisme. Viktor Yushchenko a appelé hier soir à la grève générale, grève politique nationale a-t-il dit. Il faut recourir à tous les moyens pour contester la victoire officielle, bloquer les aéroports, les voies ferrées, les routes et en même temps saisir la Cour suprême.
On en est donc là, quatre jours après les élections. L'Ukraine a trois présidents. Un sortant, toujours en place, Kouchma, un vainqueur controversé, Yanukovych, et un perdant autoproclamé, Yushchenko. Vladimir Poutine a apporté son soutien au second. Il fut un temps où cela aurait suffi, mais aujourd'hui, la dynamique est tout autre. La révolution en marche le sait, elle peut et doit compter sur l'appui des pays occidentaux, les États-Unis et surtout l'Union européenne. L'Ukraine, coupée en deux, est sur un point de bascule. D'un moment à l'autre, la crise politique peut se transformer en affrontement violent entre pro-russes et pro-européens. Alors, la révolution orange va-t-elle réussir à tenir sa mobilisation et surtout à la garder pacifique? Le pouvoir va-t-il céder aux sirènes de la répression et répondre par les armes? En cette fin d'automne 2004, tous le sentent, en Ukraine, c'est une partie du monde qui est à un tournant.
Let the rules of the streets. Derrière les sourires de façade, un petit parfum de guerre froide. Côte à côte pour la photo souvenir, mais en opposition totale sur l'Ukraine, José Manuel Durão Barroso, le nouveau président de la Commission européenne, et Vladimir Poutine, le président russe, se rencontrent pour la première fois. Pour l'Europe des 25, pas question de reconnaître le résultat des élections ukrainiennes.
Il va falloir ouvrir une enquête pour instruire toutes les plaintes pour fraude. Les élections n'ont pas respecté les normes internationales et donc l'Union européenne ne peut les accepter.
Pour Vladimir Poutine, au contraire, remettre en cause le résultat des élections, c'est fragiliser l'Ukraine.
Nous n'avons pas le droit moral de pousser un État européen important vers des désordres de masse. Ce n'est pas en provoquant des désordres dans la rue que l'on règle ce genre de problème.
Hasard historique ou coïncidence diplomatique, le sort a voulu que le 25 novembre 2004, soit quelques jours seulement après le second tour de la présidentielle ukrainienne, se tienne le sommet entre l'Union européenne et la Russie, à La Haye. Ce sommet devient le théâtre de l'opposition internationale autour du dossier ukrainien. Une pièce à trois acteurs. Le premier, c'est évidemment Vladimir Poutine qui a fait de Yanukovych son candidat. Pour la Russie, l'enjeu de taille. Année après année, elle voit fondre sa zone d'influence. Et à bien y regarder, la majeure partie des pays d'Europe centrale et de l'Est, qui appartenaient au pacte de Varsovie, est désormais membre de l'OTAN. Alors, après la Géorgie en 2003, Poutine ne peut pas laisser l'Ukraine se tourner vers l'Europe. D'ailleurs, il semblerait bien que le Kremlin n'a pas hésité à débourser plusieurs centaines de millions de dollars pour soutenir la campagne de Viktor Yanukovych. Surtout, Poutine dénonce le rôle des États-Unis dans la Révolution Orange. En face, effectivement, les Américains ont depuis plusieurs années identifié l'Ukraine comme pays pivot pour contrer les ambitions russes. Mais le soutien américain se fait plus discret. Il passe par des fondations et des aides financières apportées aux forces d'opposition. On pense notamment à The Open Society, du milliardaire George Soros, américain d'origine hongroise et financier de nombreux mouvements d'opposition dans les pays de l'Est. Poutine, Kouchma et Yanukovych dénoncent chacun leur tour un complot, expliquent que la révolution orange a été préparée et financée par les États-Unis. Pourtant, si l'influence américaine a pu jouer, cela ne suffit pas à expliquer l'ampleur de la révolution orange. Et puis, au milieu des deux puissances, il y a l'Union européenne qui, sous la pression des pays d'Europe centrale intégrés récemment, comme la Pologne, inquiète de la pression russe, décide de soutenir le mouvement d'opposition. La France, elle, par la voix de Jacques Chirac, tarde à prendre position. Le président français attend plusieurs jours pour se prononcer, sans trop s'avancer d'ailleurs.
Un des grands avantages de la démocratie, c'est de permettre à chacun de s'exprimer. Mais à condition qu'on joue tout à fait le jeu.
Or, ça n'a pas été le cas, à votre avis ?
Je n'ai pas de jugement personnel, je n'ai pas été sur place. Mais enfin, je vois que tous les experts de bonne foi, et notamment ceux de l'Union européenne, ont affirmé que la règle du jeu n'avait pas été observée. Autrement dit, que les élections n'étaient pas tout à fait nettes. Et c'est très dangereux de jouer à ce petit jeu.
Retour à Kiev. Après 4 jours de mobilisation, au sein d'opposition, on est à un tournant. Viktor Yushchenko, le candidat et leader de la Révolution Orange, qui veut à tout prix tenir sa logique pacifiste et légaliste, le sait. Yanukovych a aussi ses soutiens, à l'est et au sud du pays, mais également à Kiev, où des bus entiers aux couleurs bleues du candidat pro-russe ont transporté de nombreux partisans. Le pays reste profondément divisé et le risque de guerre civile est de plus en plus grand. Il faut donc à tout prix passer par les institutions judiciaires et politiques pour éviter le conflit. D'ailleurs, dès le 25 novembre, les juges de la Cour suprême bloquent la publication des résultats officiels et acceptent d'examiner les plaintes pour fraude déposées par l'opposition. Dans le même temps, après une grève des journalistes dans les principales chaînes du pays, le pouvoir en place, autrement dit Kouchma et Yanukovych, l'âge du lest. La télé parle enfin de la révolution orange. Et puis, la pression de l'Union européenne ouvre la voie à une négociation avec, pour médiateur, le président polonais Aleksander Kwasniewski. Ce dernier réunit Yanukovych et Youchenko autour de la table. Au cours de l'entrevue, Yanukovych reconnaît l'existence de fraude, même s'il se défend d'en être responsable. C'est désormais évident, il faut penser à organiser un nouveau scrutin en lieu et place de celui qui cause tant de troubles. Youchenko, le leader de l'opposition, refuse de rejouer les deux tours. L'idée germe alors de refaire uniquement le second tour. Pendant ce temps, dans la rue, la pression est forte. Le samedi 27 novembre, la place de l'Indépendance et la Révolution orange atteignent leur pic avec plus de 500 000 personnes. Mais à l'est du pays, pro-russe et soutien de Yanukovych, la menace de sécession est elle aussi de plus en plus proche.
Le président de l'Ukraine est le garant de la Constitution et donc de l'intégrité du pays. Leonid Kouchma, le président ukrainien, a donc réuni aujourd'hui une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale pour éviter un effondrement de l'État. Pourtant, dans le même temps, son premier ministre, qui l'a soutenu durant la campagne électorale, était à Severodonetsk, dans l'est du pays, pour un grand meeting avec des responsables des régions russophones, est et sud de l'Ukraine, en compagnie de dirigeants russes. À l'ordre du jour, la possibilité d'organiser un référendum pour créer un territoire autonome russophone en Ukraine. Tout va s'effondrer rapidement, a menacé Viktor Yanukovych. Si l'État ne stabilise pas rapidement la situation, nous aurons recours au référendum. Viktor Yushchenko, l'opposant, a répliqué en dénonçant vivement cette tentative de couper l'Ukraine en deux. Le pouvoir a perdu et joue la carte dangereuse du séparatisme, a-t-il clamé devant la foule, place de l'Indépendance.
Pour le pouvoir en place, le 28 novembre est aussi un moment critique. Yanukovych donne l'ordre aux forces spéciales de police d'intervenir. Dans les casernes, on se prépare. Mais au dernier moment, après l'intervention de la diplomatie américaine, les soldats font demi-tour. La révolution orange échappe de peu à une répression sanglante. Il semblerait que le pouvoir ait pris conscience, sous la pression internationale, du risque et des conséquences diplomatiques et historiques de cette intervention. Pour tous les acteurs, il faut absolument préserver l'unité de l'Ukraine. Ainsi, Yanukovych paraît de plus en plus affaibli. Son directeur de campagne, véritable architecte de sa candidature, démissionne. Et face aux risques séparatistes, Kouchma, le président, se détache aussi de lui. Il faut trouver une solution à la crise par la négociation. Et finalement, le 1er décembre...
Seule l'agence russe Interfax a publié l'information, mais elle est relativement crédible. La télévision ukrainienne a diffusé ce soir des images de Leonid Kouchma, le président de l'Ukraine, tourné aujourd'hui lors d'une réunion avec des membres du gouvernement. Kouchma y apparaît épuisé, hébété même, multipliant les soupirs profonds, les silences qui en disent long sur son abattement et surtout son impuissance. L'opposition, elle, continue de mobiliser les rues et les places de la capitale. Devant des dizaines de milliers de ses partisans ce soir, le candidat de cette opposition, Viktor Yushchenko, a annoncé qu'il demanderait demain au Parlement de prononcer la démission de son adversaire et toujours Premier ministre en titre, Viktor Yanukovych. Une nouveauté de taille tout de même lors de ce meeting monstre qui se poursuit à l'heure actuelle. Yushchenko est apparu à la tribune avec des militaires à ses côtés, dont deux généraux et un général d'armée. La foule a alors scandé « L'armée avec le peuple ».
Début décembre 2004, tout s'accélère. Le 2, le Parlement vote la défiance contre le Premier ministre Yanukovych. Le lendemain, la Cour suprême rend sa décision. Elle retient la synthèse proposée par l'Union européenne et demande un nouveau second tour dans les 3 semaines. Mais cette décision ne va pas sans concession pour Yushchenko et le mouvement orange. Elle implique effectivement une réforme constitutionnelle. En échange de ce nouveau suffrage, 2 modifications de la Constitution sont négociées. Pour Yushchenko et l'opposition, c'était une condition essentielle. Alors, on change la composition de la commission des élections et des amendements à la loi électorale sont adoptés afin d'éviter que les fraudes ne se répètent. En face, Kouchma parvient à rendre obligatoire une réforme constitutionnelle à voter d'ici 1 an qui limitera le pouvoir du président. Et la campagne reprend pour 3 semaines. Face à Yanukovych en bout de course, Yushchenko s'avance comme le grand favori. Il veut incarner l'unité nationale ukrainienne face au péril séparatiste brandi par Yanukovych. Le 11 décembre, un nouvel examen médical confirme qu'il a bien été victime d'un empoisonnement à la dioxine, ce qui renforce sa popularité à Yushchenko et met en lumière les pratiques du pouvoir sortant. Pendant ce temps, même si la place de l'Indépendance est un peu vidée, le mouvement orange, lui, est encore là, jusqu'à l'élection, pour maintenir la pression et s'assurer la victoire. le 26 décembre 2004, après 2 mois de lutte pacifique et citoyenne, les résultats du nouveau suffrage tombent.
On n'en doutait jamais.
Il est 2h30 du matin sur la place de l'indépendance à Kiev quand le candidat Yushchenko revendique enfin la victoire.
Chers amis, je vous félicite à l'occasion de grandes victoires, la fête de la démocratie ukrainienne. On va laisser le pouvoir criminel, les mensonges, les tortures.
Le champion de la Révolution Orange a rendu hommage à tous ceux qui ont tenu 4 semaines autour des bras zéros dans un village de toile pour permettre ce tournant historique. À ses côtés figure l'égérie du mouvement, Yulia Tymoshenko, surnommée la princesse du gaz, peut-être son futur premier ministre. Un grand drapeau européen flotte au milieu des bannières orangées. Yushchenko précise, nous ne devons dépendre ni de l'Europe, ni de la Russie, ni de la Pologne, ni des États-Unis, mais de nous-mêmes. L'hymne national conclut des vœux quasi présidentiels. Nous étions indépendants mais pas libres. Nous allons vivre dans un pays prospère et démocratique.
Au cours de cet automne 2004, la Révolution Orange a exprimé les aspirations de tout un peuple pour la démocratie, pour l'ouverture, en même temps qu'elle a donné à voir les tensions et les divisions qui composent ce jeune pays. Des coulisses diplomatiques au mouvement de rue démocratique, pendant plusieurs semaines, nous avons assisté à un moment de l'histoire d'une nation en train de s'écrire. L'équilibre trouvé était fragile et la réplique n'en fut que plus terrible 9 ans plus tard, sur cette même place de l'indépendance, lorsqu'une partie des Ukrainiens sont revenus à Maïdan pour défendre leur désir de se tourner vers l'Europe. Mais cette fois, les sourires de la victoire ont laissé place aux larmes de la répression.
Grey hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. I can't see. And they knew me, looks well my hair. My heart was thumping, drumming.
Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles aujourd'hui, 2004, Révolution Orange en Ukraine, dont nous allons parler avec notre invité Alain Guilmol. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, rédacteur en chef au quotidien La Croix, vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et de la Russie, vous avez été correspondant en Ukraine, auteur des livres intitulés « Même la neige était orange » et « Ukraine, réveil d'une nation », celui-là aux éditions Les Petits Matins en 2015. Vous étiez donc sur place à Maïdan au moment de cette histoire que nous avons racontée. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Ah, écoutez, j'en garde un souvenir assez joyeux parce que c'était la révolution de 2004 était quand même une révolution pacifique et positive. Enfin, les gens étaient animés par un immense espoir. Ils maniaient la dérision, ils maniaient de sarcasme pour s'en prendre au pouvoir, et il y avait quelque chose de très très festif. Hein. Tout d'un coup, les Ukrainiens découvraient un peu leur propre force, leur propre repartaient à la conquête de leur racine, de leur identité. Et puis ils exprimaient pour la première fois leur volonté de se tourner vers l'Europe. C'était les débuts du moment enfin, où ils ont commencé à formuler cet espoir, cette envie. Et donc la vague qui a entraîné la chute du communisme, alors a balayé toute l'Europe. Hein, et puis alors on a vu que les premiers pays à se tourner vers l'Europe, c'était la Pologne, c'était la Roumanie, c'était la République tchèque ou la Slovaquie. Et puis on peut dire l'Ukraine était restée un peu derrière, quoi. Elle était et le réveil a été un petit peu plus tardif, mais il en était quand même tout autant réel.
Alors justement, que nous enseignent ces événements de 2004 par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Alors je sais qu'il y a une autre date importante et on va y revenir, celle de 2013. Hein, mais restons sur le pont entre 2004 et ce qui se passe aujourd'hui.
Ben écoutez, il y a une continuité directe hein, entre les événements de 2004. Donc, je vous le disais, la preuve, c'était le début de ce mouvement qui a conduit l'Ukraine à se tourner vers l'Europe et à demander son rattachement, son rapprochement à la fois économique mais aussi politique, enfin et puis juridique. Enfin, ils voulaient aussi adopter un modèle de société à l'européenne. Mmh. Et bon, ce mouvement n'a cessé de s'amplifier. Hein. L'Ukraine a fait des pas de géant, on peut dire, en direction de l'Europe. Et puis les événements d'aujourd'hui, leur sens est très 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 simple. Hein. C'est Poutine qui dit non, qui ne veut pas que ce mouvement se poursuive, et donc il essaye de mettre un terme. Il a essayé de le faire par la pression économique, par la pression militaire, et maintenant il le fait par la guerre.
Alors, on va écouter une archive ensemble qui date de 2013. J'avais dit, il y a deux dates importantes. Il y a 2004, 2013, puis 2014, évidemment, avec la Crimée. Enfin, 10 années après la Révolution Orange de 2004, mais plus de 25 ans avant la guerre actuelle. Donc, retour à Maïdan, avec cette nouvelle crise politique, ce nouveau soulèvement, cette répression, la guerre jusqu'à l'annexion de la Crimée. On va écouter une archive et on va voir... ça fait un peu froid dans le dos ce qu'on entend.
France Inter. Cette fois, la messe semble dite. Vladimir Poutine a donc signé en début d'après-midi avec les nouveaux dirigeants de l'ex-province ukrainienne le traité intégrant la Crimée à la Russie. Juste avant, l'homme fort de Moscou avait pris solennellement la parole devant les deux chambres russes réunies.
Chers collègues, la Crimée a toujours été et reste, en toute âme et conscience, de tous, une partie de la Russie. Cette conviction s'est transmise de génération en génération. Le temps, les circonstances n'ont pas pu l'étioler, les difficultés de notre peuple au cours du XXe siècle n'ont pas pu éteindre cette conviction. Nos relations ont toujours été, le sont et elles seront toujours. Ces relations avec le peuple ukrainien seront des relations de frère à frère.
Vladimir Poutine qui a promis également d'en rester là et de ne pas scinder l'Ukraine.
Voilà, quand je dis des propos qui font froid dans le dos, je mets en avant évidemment la difficulté que nous avons à croire la parole de Poutine. C'est terrible. Il dit nos relations seront comme entre frères et frères. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est saisissant, non?
Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu difficile de commenter dans le contexte actuel, parce qu'effectivement, là, on est devant un déchaînement de violence absolument terrible. Enfin, en ce moment... voilà, à la minute où on se parle, hein, la ville de Kiev est encerclée. C'est une ville qui a 3 ou 4 millions d'habitants. Et donc, on peut avoir toutes les inquiétudes sur la suite. Enfin, donc, oui, la parole de Vladimir Poutine ne vaut pas grand-chose, puisque bon, la Russie avait également promis de préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Hein. Il faut se souvenir que... tout de suite après l'indépendance de l'Ukraine, donc l'indépendance c'est en 1991, l'Ukraine avait hérité des armes nucléaires de
l'URSS.
Ils se retrouvaient avec ses bombes. Et donc il y a eu une discussion diplomatique internationale, bon, chercher une solution pour pas que l'Ukraine
reste une puissance nucléaire. Et donc l'Ukraine a accepté de rendre ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité qui ont été signées par les Anglais, les Américains et les Russes. En 1994, voilà, la Russie, qui avait d'ailleurs reconnu l'indépendance de l'Ukraine, a promis l'intégrité territoriale, le respect des frontières à l'Ukraine. Et puis, donc une première fois, cette promesse a été violée en 2014 avec l'annexion de la Crimée. Visiblement, ça n'a pas suffi à l'appétit de Vladimir Poutine. Il a dit voilà, que c'était la Crimée et rien d'autre, mais bon, je crois que ça vaut. Quoi. Évidemment, non, je crois qu'il ne faut pas du tout croire une seule parole de ce que dit Vladimir Poutine.
Oui, effectivement. Alors, la liaison, techniquement, n'est pas bonne, et je ne voudrais pas que vos propos ne soient pas entendus. Donc, on va passer un disque, le temps d'essayer de rectifier cela, et puis qu'on puisse entendre tous vos propos, car ils sont évidemment intéressants. Donc, ne quittez pas surtout, hein, on se retrouve dans 3 minutes, après avoir écouté PR2B, Rayon Gamma.
Minuit, soleil, tête sur la vitre, j'ai pas sommeil. La city dort depuis 6 mois. Tu sais vraiment n'importe quoi ce qu'on vit, dis-moi, minuit, Marseille. Je voudrais bien que la vie se réveille, qu'elle remplisse tout d'un feu grisant, qu'on n'entende que les pneus qui crissent, la vie reprend. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà? Sans les rayons gamma. Alors, si on changeait tout ça, je sais qu'on survivra comme les rayons gamma. Minuit, réveil, je deviens dingue, Paris bouteille. Titanic coule sur l'oreiller, et moi je me retiens encore une fois de pleurer. Minuit, pareil, que les chiens qui se la coulent belle. 18 carats sur le collier, et la même envie insoutenable de s'évader. Alors c'est comme ça, on faisait comment déjà, sans les rayons.
Et nous retrouvons notre invité dans Affaires Sensibles, Alain Guilmoil, avec, j'espère, une liaison meilleure. M'entendez-vous ?
Oui, je vous entends bien.
Voilà, je vous entends beaucoup mieux. Bien, donc on a réussi à entendre quand même ce que vous nous avez dit en tendant l'oreille. Alors, vous connaissez la ligne éditoriale d'Affaires Sensibles. On parle des événements passés pour éclairer le présent. Mais la situation au présent, là, est tellement tendue, tellement forte et tellement grave qu'on va être, si vous le voulez bien, dans le présent maintenant, peut-être essayer de dessiner l'avenir. Que veut Poutine exactement ? Quels sont ses desseins, selon vous ?
Alors écoutez, si on essaye de le résumer rapidement, ce qu'il veut, c'est une Ukraine qui soit dans l'orbite de la Russie. Oui. Donc il a voulu mettre fin à cet éloignement progressif de l'Ukraine, qui donc s'est éloigné de la Russie, et puis un fossé s'est petit à petit creusé, hein, depuis après l'annexion de la Crimée, et le pays se tournait de plus en plus vers l'Europe, exportait en direction de l'Europe, les touristes ukrainiens venaient en Europe, etc. Enfin, bon, on avait tout un mouvement comme ça, culturellement aussi un rapprochement avec les pays voisins, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, et petit à petit, l'Ukraine donc sortait de l'ancien bloc ex-soviétique. Et c'est à ça que Vladimir Poutine a voulu mettre un terme, en ramenant de
dans le giron
brutal l'Ukraine dans le giron de la Russie. Donc ce qu'on peut prévoir, c'est que enfin on comprend son projet, son plan, voilà, c'est de s'emparer du territoire et de mettre au pouvoir en Ukraine un gouvernement qui serait pro-russe.
Alors ça ne donne pas raison à Poutine, parce que dès lors qu'on envahit un pays, on est en violation du droit international, bien sûr. Mais vous rappeliez que les armes nucléaires de l'URSS qui étaient en Ukraine, hein, du temps de l'URSS, avaient été rapatriées en Russie en échange de la part de la Russie d'une protection de l'Ukraine, certes. Mais cette même Ukraine a eu, comme vous le disiez également, le regard de plus en plus tourné vers l'Occident. On va dire l'Europe, l'OTAN. Est-ce que ça l'a pas fausser les pistes quand même? Il ne s'agit pas de donner raison ou tort à l'un ou l'autre, bien sûr, on n'est là que dans l'analyse.
Oui, bien sûr, non. C'est-à-dire que ça a été le choix des Ukrainiens, mais un choix qui s'explique aussi par l'histoire. Hein. C'est-à-dire, bon, il faut se rendre compte que les relations entre l'Ukraine et la Russie, bon, deux pays qui sont culturellement proches, mais qui sont en même temps différents, ces relations ont toujours été très compliquées et très difficiles. Et en fait, il y a toujours eu une volonté de domination de la part de la Russie, de son voisin ukrainien. Et cette domination s'est faite au prix d'un certain nombre de tragédies. Alors, pour n'en citer qu'une, en particulier en 1933, le régime bolchevique de l'époque a voulu collectiviser
les terres,
les fermes, l'agriculture, et donc a forcé les paysans à rejoindre des fermes collectives. Ce que les paysans à l'époque n'ont pas voulu faire, et les paysans ukrainiens en particulier, très attachés au modèle agricole traditionnel, aux fermes, voilà, c'est enfin l'ukrainien, c'est un fermier, hein, traditionnellement. Mm-hmm. Et donc les bolcheviks ont alors entouré les villages dans les campagnes ukrainiennes et ont affamé confisquant toute la nourriture, ont affamé les paysans ukrainiens. Et ça, c'est un drame absolu qui a fait, entre 4 et 6 millions de morts. C'est un épisode qui est connu sous le nom de Golodomor, avec un H au début, enfin, pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus. Mm-hmm. Donc, bon, ça, c'est un épisode qui est complètement traumatique dans la mémoire ukrainienne. Ça explique que dès que les Ukrainiens ont pu s'éloigner de la Russie, ils avaient quand même de bonnes raisons de le faire et de vouloir se tourner vers d'autres partenaires et chercher la protection d'autres organisations comme l'OTAN. C'est-à-dire, bon, on parle de l'élargissement de l'OTAN, on en parle beaucoup ces jours-ci, mais il faut quand même rappeler que les Ukrainiens étaient d'abord les premiers demandeurs. Hein. C'est pas, il n'y avait pas une volonté de l'OTAN absolument de conquérir, de s'élargir. Et voilà, l'OTAN s'est élargi parce qu'il a cédé à la demande des pays d'Europe centrale qui tous ont une mémoire un peu traumatisée dans leur relation avec la Russie.
L'Union soviétique, voilà, en fait.
Y compris les Polonais, enfin, on peut dire ça, on pourrait détailler ça pour chacun des pays de la région.
C'est-à-dire que c'est, à l'époque du communisme, pour ces pays-là, l'ennemi de mon ennemi était mon ami. Donc, en l'occurrence, les États-Unis. Et donc toujours le regard tourné vers les États-Unis.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les États-Unis apparaissaient comme étant une puissance plus, disons, qui n'avait pas la même volonté de dominer, d'asservir, d'installer un modèle par la force. Comme l'ont connu les Ukrainiens en plusieurs reprises.
Parce qu'on pourrait considérer, alors de façon un peu égoïste, malgré tout, en venant de l'Ouest, que la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine, surtout, constituent une sorte de zone tampon entre ce qu'on pourrait rappeler maintenant, parce que ça nous rappelle un peu la guerre froide, l'Ouest et l'Est.
Alors, bon, malheureusement, on n'en est plus là aujourd'hui, quoi. Mmh. C'est-à-dire, là, maintenant, on est rentré dans autre chose, hein. C'est, je veux dire, puisque, on a ouvert la porte aux Ukrainiens de l'Europe en signant avec eux un accord d'association déjà en 2014, c'est-à-dire après qu'ils aient fait la révolution, leur deuxième révolution, celle de 2013-2014, il y a quand même eu du côté des Européens enfin un sentiment que bon qu'il y avait un désir d'Europe chez eux et qu'il fallait y répondre.
Oui.
Et donc on a signé à l'époque un accord d'association, donc l'Ukraine est membre associé de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'a aucun droit politique, mais par contre, il est associé à l'espace économique européen. Il peut vendre ses marchandises dans l'espace européen sans payer de droits de douane. Les Ukrainiens ont le droit de voyager dans l'Union européenne sans visa pour une durée de 3 mois, pour des séjours inférieurs à 3 mois. Donc voilà, ils ont déjà conquis une certaine place, disons, au sein de l'Europe. Et ça fait déjà, bon, voilà, on parle de 2014, donc vous voyez, ça fait déjà 8 ans.
Oui.
Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout d'un coup revenir là-dessus? Parce que un État voisin, un État tiers l'exige.
Oui.
Un État tiers qui par ailleurs a déjà croqué un morceau de ce territoire, hein, la Crimée, et puis aussi a installé la guerre sur le territoire de cet État en soutenant une rébellion séparatiste dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, qui a participé à dégrader le. Enfin, on a vu le rôle que ça a joué dans le déclenchement de la guerre actuelle, quoi. C'est là-dessus que Vladimir Poutine s'est appuyé pour remettre en question la légitimité des autorités de Kiev et puis déclencher cette invasion.
Donc là, on comprend la résistance des Ukrainiens, pas forcément d'un point de vue technique, parce qu'on se dit que si l'armée ukrainienne n'est pas une petite armée, c'est quand même pas l'armée russe. Mais ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une motivation terrible, incroyable des Ukrainiens de ne pas faire marche arrière, ne pas arrêter ce que vous venez de nous expliquer maintenant, la liberté de se déplacer en Europe, et puis ce pied dans l'Europe, ne serait-ce que moralement, pour l'instant. Donc,
oui, je crois qu'il faut partir de là avant de, comment dire, avant de faire des analyses géopolitiques et en gros d'analyser le destin de l'Ukraine sans l'Ukraine, quoi.
C'est ça.
C'est-à-dire de dire bon, c'est un jeu entre blocs et entre grandes puissances, etc. Bon, ça compte bien sûr ce type d'analyse, hein, il faut pas l'écarter. Mais enfin, il me semble que il faut mettre les choses dans l'ordre. Il faut commencer par dire qu'est-ce que c'est que l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine aujourd'hui, bon, c'est un pays dans lequel la population qui a longtemps été hésitante sur son destin, sur son avenir, aujourd'hui est très soudée, rassemblée autour de l'idée qu'elle doit, enfin qu'elle veut se rapprocher du modèle européen et qu'elle est prête à se battre pour ça, à se défendre. Enfin, quand on voit la mobilisation de ces jours-ci pour essayer de survivre, tout simplement. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, c'est sûr que l'armée ukrainienne n'est pas aussi bien équipée que l'armée russe, enfin loin de là, n'est pas aussi nombreuse. Mais enfin, elle se bat quand même chez elle pour défendre sa maison. Et on sait que une armée qui défend son territoire, ce qui est chez elle, a toujours beaucoup plus de motivation qu'une armée qui envahit un autre pays. Hein. On peut aussi douter de la motivation des soldats russes, parce que ils ont quand même une certaine familiarité avec l'Ukraine. C'est un pays qu'ils connaissent, dans lequel ils ont souvent de la famille, des amis, où ils sont venus en vacances. Enfin, et puis voilà. Et puis les Ukrainiens sont bilingues, ils parlent le russe, donc ils peuvent se parler. Vous voyez. Et donc pour eux, c'est presque comme tirer sur leurs semblables. Donc c'est aussi un peu compliqué pour les Russes de mener cette opération. Alors, bien sûr, si les choses continuent à s'aggraver, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, et je me garderai bien de faire des prévisions, parce que là, on est dans une montée de la crise encore, où on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais enfin, on peut en tout cas ne pas douter du fait que les Ukrainiens ont le sentiment qu'ils se battent dos au mur, et que donc, ils sont prêts à énormément de sacrifices et à faire le plus mal possible à l'armée russe, enfin, tant qu'ils le pourront, quoi.
Ouais. Ça veut dire, ma dernière question, il reste vraiment quelques secondes, que Vladimir Poutine et son gouvernement et ses services secrets n'étaient peut-être pas assez informés, n'ont pas compris l'âme ukrainienne, ce qui pouvait se passer, leur capacité de résistance.
Alors, sans doute oui, mais en fait, bon, ça pose beaucoup de questions sur le pouvoir russe lui-même. C'est-à-dire, est-ce que Vladimir Poutine écoute encore ses conseillers, écoute encore ses services, ou bien est-il complètement coupé de la réalité, ah oui. isolé dans une bulle, mmh. au point qu'il a pris cette décision seul et qu'il amène son propre pays vers un drame.
Alain Guimol, c'est la fin de cet entretien. Merci infiniment. Nous continuerons dans Affaires Sensibles toute la semaine à faire œuvre de pédagogie, comme on l'a fait avec vous, et je retiens ce que vous dites, parler de cette affaire ukrainienne, c'est d'abord parler des Ukrainiens, effectivement. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
C'est des Affaires Sensibles aujourd'hui, l'Ukraine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib. À suivre, pop, 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 sur France Inter, évidemment, avec Antoine Decaune, c'est dans quelques secondes. Enfin, c'est juste après le flash.